Théologie biblique, le 25 avril 1985.
Alors nous entrons dans toute la liturgie et la question des habits liturgiques. On pourrait évidemment dire on va passer ça, ça n'a pas grande importance. Je crois que ça a une importance capitale, beaucoup plus qu'on ne le pense, puisque quand même, si nous le regardons dans un regard de foi et non pas un regard historique, dans un regard historique, on dirait c'est du passé. Dans un regard de foi, on peut dire c'est Dieu qui prépare son peuple, qui éduque son peuple à être un peuple religieux. C'est toute l'éducation religieuse. C'est important pour nous parce que pas un iota de la loi ne disparaît. Donc tout l'aspect religieux demeure, mais il est complètement transformé par le point de vue des vertus théologales. Les vertus théologales nous donnent ce lien direct avec Jésus, et dans la lumière du Christ, tout est transformé, tout est repris. Le nouveau temple, c'est le corps du Christ. Donc, tout est à reprendre dans la lumière du corps glorieux de Jésus. Et c'est dans la lumière du corps glorieux de Jésus que nous devons comprendre tout ce que représente dans l'Ancien Testament de l'ordre de la disposition. Mais alors, il ne faut jamais oublier ça, c'est le point de vue d'une théologie biblique qui essaie de comprendre l'économie divine. Alors, n'oublions jamais ce petit schéma très simple. Disposition, c'est la clé, ça, pour comprendre la théologie biblique. Disposition, l'aspect de la substance, je vois du philosophe, et la propriété. Ce qui, dans l'ordre du venir et de l'ordre de la disposition, lorsque la substance arrive, devient la propriété. Dans l'ancienne alliance, j'essaie de comprendre, dans l'ancienne alliance, l'aspect liturgique est capital. C'est évident, c'est capital. C'est un peuple religieux. Israël est un peuple religieux éduqué par Dieu. Et qui doit être éduqué par Dieu pour être le peuple religieux type. Pas un peuple n'a été aussi religieux qu'Israël. C'est vrai, c'est l'attitude religieuse qui domine, et l'attitude, par le fait même, religieux, communautaire, liturgique. Et c'est, je crois, dans l'Exode, dans le Deutéronome, dans tout cet aspect de l'ordre de la disposition, parce qu'on est dans l'ordre de l'exode, c'est la disposition. La réalisation va tout de suite être un peu moins pure. Et le prophète Samuel nous montre bien. Les prophètes sont là pour rappeler que les réalisations ne sont pas pures, que Dieu, dans les réalisations, c'est jamais absolument pur. Les dispositions, c'est la tendance vers. C'est le peuple d'Israël qui monte vers la terre promise. Il est purifié, c'est les purifications, l'Exode. Les purifications du côté religieux. Alors, donc on peut dire la disposition, c'est l'attitude religieuse. Tout ce qui est impliqué dans l'attitude religieuse. Les hommes religieux qui sont en vue d'eux. Lorsque le Christ, pour nous, la substance, c'est le Christ. Dans l'économie divine. C'est le Christ qui apporte la perfection. Avant, on est dans l'ordre de l'imparfait. C'est pour ça que d'une certaine manière, il n'y a pas de principe. Et c'est vrai, il n'y a pas de principe. C'est dans l'ordre de la disposition. On est dans l'ordre du devenir. C'est le Christ qui apporte la perfection. Et alors, tout ce qui est avant va redevenir comme propriété. La liturgie, pour nous, prend une place moins grande que dans l'ancienne alliance. Pourquoi ? Parce que nous avons le mystère du Christ. Et le mystère du Christ, il est saisi directement par la foi. Il est saisi directement par l'espérance et par la charité, les vertus théologales. Les vertus théologales existent aussi dans l'Ancien Testament, c'est bien évident. Abraham a la foi, il a l'espérance et il a la charité. Mais les vertus théologales n'ont pas cet état de perfection qu'ils ont dans la Nouvelle Alliance. Donc le lien entre les vertus théologales et la vertu de religion n'est pas le même dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Et ça, il faut tout le temps essayer de le comprendre. Mais c'est quand même très important pour bien saisir justement ce qu'est la propriété de regarder la disposition. C'est un petit schéma, hein, très simple. C'est toute l'économie divine, ça. L'Ancienne Alliance, on est dans l'ordre de la disposition. On n'est pas dans l'ordre de la réalisation. La réalisation, c'est le Christ. C'est le Christ qui nous donne la lumière plénière. Et donc, les vertus théologales nous lient directement au Christ. C'est en ce sens-là, vous voyez, que l'aspect contemplation par les vertus théologales a quelque chose de premier. Ça nous lie au Christ directement. Et la liturgie, donc toute la vertu de religion, la liturgie va être une liturgie théologale et une liturgie religieuse. Notre liturgie est commandée par le sacerdoce du Christ. Toute liturgie est commandée par le prêtre. C'est évident, on en voit bien ici, hein, l'importance du sacerdoce. Le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est donc un sacerdoce contemplatif. Puisque c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé, sacerdoce d'amour. C'est pas un sacerdoce premièrement religieux. Et ça, l'Épître aux Hébreux le montre bien. Le sacerdoce lévitique est religieux. C'est un sacerdoce d'attente. Le sacerdoce du Christ, c'est la réalisation. C'est pour ça qu'il faut que l'ancienne alliance disparaisse en face de la nouvelle alliance qui seule aboutit à la plénitude. Et le sacerdoce du Christ étant un sacerdoce contemplatif, puisque c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé, on comprend comment l'attitude chrétienne est premièrement contemplative, premièrement intérieure, et l'aspect religieux devient propriété, c'est-à-dire devient le rayonnement, la manifestation. La liturgie est à la fois ce qui exprime notre vie contemplative, le lien d'amour qu'il y a avec le Christ, le lien d'amour qu'il y a avec la très sainte Trinité, et en même temps est de l'ordre qui assume l'homme. La vertu de religion est toujours, hein, toujours le point de vue intermédiaire entre, au point de vue pratique, entre les vertus théologales qui sont ce qui fait de nous des fils de Dieu et le point de vue de l'homme, le point de vue moral. C'est par la vertu de religion que les vertus théologales s'incarnent pleinement dans l'homme. L'adoration en esprit et en vérité. C'est la transformation de l'adoration en esprit, en vérité, par les vertus théologales. Donc il faut toujours avoir ce petit schéma dedans, avec toute la souplesse qu'il faut. Il faut bien comprendre cela, il faut bien comprendre cette transformation au niveau du sacerdoce. Et je dis bien, c'est une transformation au niveau du sacerdoce, puisque ici, on voit que l'aspect religieux prend toute sa force au niveau du sacerdoce. Le prêtre, il est responsable de l'attitude religieuse. Dans l'Ancien Testament, c'est très net. Les prophètes auront une autre fonction. Une autre fonction. Et dans notre vie chrétienne, dans l'alliance nouvelle dans le Christ, le sacerdoce est premièrement un sacerdoce contemplatif. Parce que c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Mais ça n'enlève rien de la responsabilité qu'il a à l'égard de la liturgie. La liturgie n'est pas premièrement laïque. C'est très faux, ça. La liturgie est premièrement sacerdotale. Dans l'Ancien Testament, c'est très net. Et dans la Nouvelle Alliance, ça demeure. C'est pour ça qu'on dit que le prêtre préside. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire dire pas qu'il est président, mais il préside, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable. Il est responsable de la liturgie. C'est important de saisir ça pour comprendre. C'est pas commode dans le monde d'aujourd'hui de voir comment, surtout quand il y a une pénurie de prêtres, comment on doit faire. Alors, dans la liturgie du sépulcre, ce sont les laïcs. Très curieux. Mais la liturgie du temple sont les prêtres. Et vous voyez que les prêtres sont avant le temple. Hein, faut pas l'oublier. Dans l'ordre de la disposition. Et c'est intéressant, et ce serait très intéressant de voir l'ordre. Comment Dieu établit un ordre. Il y a avant le médiateur, c'est Moïse qui est premier. Hein, dans cet ordre religieux, cet ordre de la disposition. Le Christ reprend tout dans un ordre nouveau, puisqu'il est fils bien-aimé. Et tout est repris dans un ordre nouveau. Il y a un ordre qui est l'ancienne alliance, et dans cet ordre de l'ancienne alliance, c'est l'aspect religieux qui domine. Ce qui n'empêche absolument pas que les vertus théologales soient présentes. Il ne faut pas dire que les vertus théologales ne sont pas présentes dans l'Ancien Testament. Les vertus théologales sont présentes, mais c'est l'aspect religieux éducatif. Dieu qui éduque son peuple. C'est extraordinaire, ça. Dieu qui éduque son peuple. On éduque par l'aspect religieux. Les religieux, ce sont des spécialistes dans l'ordre de l'éducation. Hein? Aussi bien ceux qui éduquent qui sont éduqués. Hein? Non. Les religieux, c'est ceux qui sont le mieux éduqués. Du moins, ils doivent être ça. Ils doivent être parfaitement éduqués, parce que l'éducation, c'est au niveau religieux. L'éducation n'est pas au niveau des vertus théologales. Au niveau des vertus théologales, c'est le Saint-Esprit qui éduque. Demandez au Saint-Esprit de vous éduquer au point de vue de la foi, au point de vue de l'espérance, au point de vue de l'amour. Hein. Au point de vue religieux, oui, le Saint-Esprit délègue des pédagogues. Mais au point de vue de la vie religieuse, vous êtes des fils, et donc c'est la paternité, c'est autre chose. L'éducation et la paternité, ce n'est pas la même chose. Hein. L'éducateur, il est cause seconde. Quand on est l'instrument du Saint-Esprit, on est instrument du Saint-Esprit. Tout ça se tient. Il faut arriver petit à petit à bien comprendre cela dans la lumière de l'Écriture. Dans cette pédagogie divine, dans cette manière dont Dieu nous éduque, dans cette manière dont Dieu nous conduit vers le Christ. Alors, ça demeure pour nous toujours intéressant, même quand on est dans la lumière de la propriété, de regarder cela, de regarder la disposition. Ça nous intéresse. Et c'est beau parce que c'est dit explicitement. Vous voyez, l'ordre de l'éducation est toujours beaucoup plus explicite. Dans l'ancienne alliance, tout est beaucoup plus explicite au point de vue éducation. Dans la nouvelle alliance, l'aspect éducatif est beaucoup moins explicite. Beaucoup moins. Vous voyez l'Esprit Saint agir toujours dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres, un point de vue comme livre d'éducation ou de pédagogie, c'est pas commode à saisir. Vous avez Jésus, oui, qui nous montre et qui est un pédagogue merveilleux, plus exactement qui est un père, qui n'est pas un pédagogue, qui est un père, et qui nous montre, mais sans méthode. Jette le filet à droite. Sans méthode. Comme un père. Un père, il dit, regardez-moi vivre, puis ça y est. Il n'est pas là tout le temps, il dit, ah voilà la méthode, j'ai retrouvé une nouvelle méthode. Non, pas du tout, un père, il vit avec ses enfants. Et son éducation, c'est de vivre avec eux, et de les engendrer dans une vie. Ça, la très grosse différence. Et ça n'empêche pas, puisque le devenir demeure, que nous avons besoin d'être éduqués. C'est pour ça que le statut de la vie religieuse est très différent dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle. Dans la Nouvelle Alliance, le statut de la vie religieuse, il est entièrement assumé, il demande d'être entièrement assumé par les vertus théologales. Vous avez la paternité et la maternité de Marie. Le père et la mère jouent un rôle beaucoup plus important dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne. dans l'ancienne, c'est de l'ordre des pédagogues. Parce que c'est de l'ordre de l'éducation. Et c'est important de le voir, parce que nous avons toujours besoin d'être éduqués, nous avons toujours besoin d'être éduqués, parce qu'il y a un devenir en nous. C'est le devenir qui nous fait de nous des êtres qui ont besoin d'être éduqués. Alors, c'est dans cette perspective-là que nous avions essayé d'entrer dans ce que représente ici ces détails. Ce sont des détails, mais des détails voulus par Dieu selon un art religieux merveilleux pour entrer dans ce que représente le point de vue d'un peuple qui doit adorer, éduquer à l'adoration. C'est si difficile de devenir des êtres qui adorent. C'est pas commode, surtout dans le monde d'aujourd'hui, hein, où tout conduit à l'inverse. Quand vous regardez ce qu'est le monde d'aujourd'hui, la matérialisation du monde d'aujourd'hui, l'indépendance du monde d'aujourd'hui, le côté artistique du monde d'aujourd'hui, c'est juste l'inverse, hein, d'un monde qui doit être conduit à l'adoration. L'adoration nous donne le sens de la dépendance radicale à l'égard de Dieu. Et ce sens radical à l'égard de Dieu, c'est la dépendance de toute notre âme et de tout notre être, jusque dans notre corps. Nous sommes dépendants radicalement de Dieu, dans tout nous-mêmes. Et alors, le corps, c'est l'habit qui éduque le corps. Notre corps est éduqué par l'habit. On est enveloppé par l'habit. Comme des nouveaux-nés. Alors on est éduqué de cette manière-là. Je comprends que dans le monde d'aujourd'hui, on trouve insupportable l'habit. Je comprends très bien. C'est insupportable. Parce que ça vous rappelle que vous devez être éduqué et que l'éducation ne vous quitte pas. C'est l'éducation maternelle, l'habit. C'est la mère qui emmaillote les enfants. De temps en temps, le père, quand la mère n'est pas là, mais normalement, c'est la mère. N'est-ce pas ? Et alors, c'est l'habit qui fait ça. Et qui fait un milieu que nous portons. Nous portons notre petite cellule par l'habit. Alors on comprend très bien que les gens ouvrent des yeux énormes. Qu'est-ce que c'est que ces yeux ? Normalement, on doit laisser ça au vestiaire. Hein, et on doit. Quand vous êtes en maillot de bain, personne ne vous regarde. Et quand vous êtes en habit religieux, tout le monde vous regarde. C'est extraordinaire. C'est le monde d'aujourd'hui, ça. Et ça fait comprendre la différence entre les deux. Et toi, fais approcher de toi Aaron, chapitre 28, hein, ton frère et ses fils avec lui, du milieu des fils d'Israël, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Alors nous allons entrer, voyez, dans ce grand mystère du sacerdoce. Je vous dis, il faut toujours avoir en présence l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux est une épître difficile à comprendre parce qu'elle est très théologique, elle est merveilleuse puisque c'est Dieu qui nous donne une théologie. C'est une théologie inspirée, l'épître aux Hébreux. Alors, il faut la lire, la relire, la reprendre souvent. Et puis comme disent les exégètes d'aujourd'hui, et je crois que c'est juste ça, c'est le passage entre la vision de saint Paul et saint Jean. C'est l'épître aux Hébreux. C'est l'épître aux Hébreux qui nous montre l'importance du sacerdoce. Et saint Jean montre l'importance du Fils bien-aimé. Sacerdoce du Fils bien-aimé. Donc, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce à Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Athimar, les fils d'Aaron. Tu feras pour Aaron, ton frère, des habits sacrés, qui lui seront une glorieuse parure. Vous voyez, la beauté. La gloire, c'est toujours un peu la beauté. Hein. Parce que c'est la splendeur de la victoire de l'amour. Et donc la gloire est toujours liée à la beauté. Toujours. La liturgie est toujours liée à la beauté. Parce qu'elle est glorieuse. Toute liturgie est glorieuse. Celle de l'Ancien Testament est très glorieuse. Celle du Nouveau Testament est plus pauvre. Beaucoup plus pauvre. Pour laisser toute la place aux vertus théologales. Tandis que celle de l'Ancien Testament, elle est somptueuse. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas une liturgie aussi somptueuse que celle de l'Ancien Testament. C'est pour ça que le regard sur l'Ancienne Alliance nous aide à comprendre ce que c'est que la liturgie dans toute sa splendeur. Alors, il ne faut pas avoir trop la nostalgie de cette splendeur. Certains disent que l'Épître aux Hébreux a été écrite justement pour les prêtres qui ont eu soudainement le regret un peu de la splendeur de la liturgie de l'Ancienne Alliance, comparativement à la pauvreté de la liturgie de la Nouvelle Alliance. Parce qu'elle est beaucoup plus intérieure. Elle est beaucoup plus intérieure. Elle est tout intériorisée par l'amour. Alors, les prêtres qui avaient adhéré au mystère de Jésus louchaient un peu sur ce qu'ils avaient quitté. Un peu le regret. Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce qu'il ne faudrait pas garder toute l'ancienne liturgie? Et on comprend très bien ça. Alors, l'Épître aux Hébreux montre comment la Nouvelle Alliance aboutit au terme. Et quand on aboutit au terme, alors on peut avoir cette emprise plénière de l'amour. C'est important de toujours essayer de comprendre ça, parce que nous vivons cela, et on comprend très bien. Et le renouveau liturgique, hein, le renouveau liturgique, parce qu'il y a un renouveau liturgique qu'on puisse regretter l'ancien, très bien, je comprends très bien. C'est sûr, le renouveau liturgique n'a pas la splendeur de l'ancien. C'est peut-être pour arriver au mystère du sépulcre. C'est peut-être ça. Il faut quand même essayer d'être docile au Saint-Esprit, et que l'Église est conduite par le Saint-Esprit, même si quelquefois les théologiens sont des gens qui ont des idées un peu curieuses. Le Saint-Esprit, malgré ça, s'en sert. Il se sert de tout le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce qu'il est tellement intelligent par son amour qu'il se sert de tout. Quand on est moins intelligent, on doit être plus attentif à ceux qu'on met en place. Tandis que le Saint-Esprit, lui, il est au-dessus. Il se sert même de l'ânesse de Balaam. C'est ça, non. Alors, de temps en temps, on voit très bien comment il peut se servir de tout. Il fait feu de tout bois. Tu verras pour Aaron, ton frère, des habits sacrés. Alors, voyez tout de suite, hein, des habits sacrés, c'est-à-dire l'aspect religieux, c'est toujours sacré. Qui dit religieux dit sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré? C'est ce qui est immédiatement relié à Dieu. Je crois que c'est ça la définition du sacré. La différence du sacré et du profane. Le profane, c'est ce qui est relié à l'homme et qui reste horizontal, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est le profane. Le commerce est profane. Le commerce n'est pas sacré. Ça, c'est sûr. Donc, tout ce qui est profane n'est pas immédiatement relié à Dieu. C'est l'homme qu'on appelle et c'est l'homme qui est reflété dans le profane. Dans le sacré, c'est immédiatement quelque chose qui est relié à Dieu. Nous devons maintenir la distinction du sacré et du profane. Certains théologiens, depuis un certain nombre d'années, ont écrit des articles en disant que la distinction du sacré et du profane était complètement dépassée, que c'était une distinction grecque. On a l'impression qu'ils n'ont jamais lu l'Écriture. Parce que la distinction du sacré et du profane, c'est tout simplement distinguer le point de vue de la justice humaine et l'attitude religieuse. Dès que vous êtes dans une attitude religieuse, vous êtes en face du sacré. Ce lieu est saint, il est sacré. C'est tout ce qui est relié directement à Dieu. Tout ce qui est sous la mouvance directe de Dieu, ça c'est du sacré. Alors il y a dans le sacré différentes demeures, mais c'est du sacré. Donc tout ce qui est religieux est sacré. Et c'est pour ça qu'il faut des habits sacrés. C'est pour ça qu'on bénit l'habit religieux, pour montrer qu'il est sacré. Il ne faut pas prendre l'habit religieux pour faire n'importe quoi. Au sens rigoureux. Je vais me servir de l'habit pour faire de l'autostop. Ça marche mieux avec l'habit. Vous voyez ? du détournement du sacré vers le profane. C'est vrai, c'est du détournement du sacré vers le profane. Que de fait, quand on est... Attention, c'est pas ce que je dis. Que de fait, vous êtes en habit et que vous soyez des mendiants de Dieu. Alors c'est très différent, vous êtes des mendiants de Dieu. Alors vous ne vous servez pas de l'habit pour faire de l'autostop, c'est différent. Donc tu feras pour Abraham, ton frère, des habits sacrés qui lui seront une glorieuse parure. Donc c'est le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Et en ce sens-là, l'habit est toujours relié à la gloire. C'est sacré et c'est relié à la gloire. Et toi, tu parleras à tous les hommes habiles. Vous voyez la différence entre le sacré et l'habile, hein ? Vous voyez bien la différence ? Le profane demande d'être habile, jamais le sacré. Vous ne pouvez pas être habile à l'égard de Dieu. Ne faites pas le malin en face de Dieu, hein, qui voit tout. Tandis qu'en face des hommes, vous pouvez les, oui, vous pouvez les rouler. Hein. Vous êtes habile. C'est la politique, l'habileté. Tandis qu'au contraire, en face de Dieu, pas de danger. On est dans l'attitude, la naïveté, l'attitude de celui qui sait que Dieu voit tout. Et toi, tu parleras à tous les hommes habiles que j'ai remplis d'un esprit d'habileté, et ils feront les habits d'Aaron. Ah, c'est très très joli ça. Vous demandez à des gens habiles de faire des habits sacrés. Hein? Autrement dit, vous voulez que l'habit ne soit pas un bout de chiffon, qu'il soit fait par des gens habiles. Il faut qu'il soit bien. L'habit sacré demande d'être bien, ne demande pas d'être n'importe quoi, sous prétexte de pauvreté, non. C'est assez étonnant ces choses-là, parce que, alors je sais très bien, on est dans l'ancienne alliance, la pauvreté apparaîtra après. Ce sera le passage entre les deux. Alors, il y aurait la dimension nouvelle de la pauvreté. Parce que le fils de Dieu, qui est le fils de l'homme, voudra vivre une vie de pauvre. Et alors, il y aura cette caractéristique particulière de la pauvreté royale du Christ dans la liturgie chrétienne. Et c'est vrai, ça. Tandis qu'ici, ça se voit moins. Et toi, tu parleras à tous les hommes habiles que j'ai remplis d'esprit d'habileté. Et ils feront les habits d'Aaron, pour qu'il soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les habits qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, un manteau, une tunique en piqué, un turban et une ceinture. Ils feront des habits sacrés pour Aaron, ton frère, et pour ses fils, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Et eux se procureront l'or, la pourpre violette, la pourpre rouge, le cramoisi et le lin fin. Enfin, des habits qui sont adaptés au mystère du sacerdoce, pour qu'ils exercent le sacerdoce. Les habits sont de l'ordre de la disposition pour l'exercice du sacerdoce. Ce n'est pas l'habit religieux, hein, faisons attention, hein, c'est l'habit en vue du sacerdoce. Alors il y aura l'extension de l'habit au niveau du sacerdoce royal des fidèles. Et l'habit religieux, c'est au niveau du sacerdoce royal des fidèles, qui prend toute la vie. Et l'habit sacerdotal, c'est quand on officie. C'est donc deux finalités différentes, hein. Mais c'est toujours le sacerdoce royal des fidèles, et puis le sacerdoce ministériel. Et je crois que c'est lié au sacerdoce. Si la grâce chrétienne n'était pas une grâce sacerdotale, je crois qu'il n'y aurait pas d'habit religieux. L'habit religieux est lié à cette fonction sacerdotale d'être des médiateurs pour les hommes. Puisque c'est le sacerdoce royal des fidèles. Et l'habit religieux est lié au sacerdoce royal des fidèles. Et en plus de l'habit religieux, il y a un habit sacerdotal au niveau ministériel, qui est commun à tous les prêtres, qui est celui du prêtre. Et vous voyez, quand celui qui refuse de mettre un habit au niveau sacerdotal, c'est qu'il ne comprend pas que nous ne sommes pas naturellement prêtres. Il faut avoir un habit profane, mais il est nécessaire pour exercer le sacerdoce et pour bien manifester que le sacerdoce est quelque chose de sacré qui ne nous appartient pas et qui est quelque chose qui vient de Dieu. Il y a quelque chose qui se manifeste à l'extérieur. Alors on va regarder ces différents aspects de la vie sacerdotale en fonction de l'exercice du sacerdoce. L'éphod. Ils feront l'éphod. Total en fonction de l'exercice du sacerdoce. L'éphod. Ils feront l'éphod d'or, de pourpre violette et de pourpre rouge, de cramoisi et de lin fin. Retors, œuvre d'artiste. Très très beau de voir ça. Hein? Ça doit être l'œuvre d'artiste. Il aura deux épaulettes attachées à ses deux extrémités. Ainsi, il sera attaché. L'écharpe pour le fixer par-dessus sera de même façon que l'éphod. Il fera corps avec lui. Elle sera d'or, de pourpre violette et de pourpre rouge, de cramoisi et de fin et de lin fin retors. Tu prendras les deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Six de leurs noms sur la première pierre et six noms restants sur la deuxième pierre, selon leur ordre de naissance. C'est à la façon du lapidaire, en gravure de sceau, que tu graveras les deux pierres au nom des fils d'Israël, et tu les enchasseras dans des chatons d'or. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod, pierre de mémorial pour les fils d'Israël. Ainsi Aaron portera sur ses deux épaules leur nom devant Yahvé en mémorial. Tu feras des chatons d'or et deux chaînettes d'or pur, que tu feras comme des cordelettes en façon de torsade, et ces chaînettes en torsade, tu les placeras sur les chatons. Je voudrais vous les montrer, hein. Alors vous verriez tout de suite ce que ça représente. Je vais essayer de comprendre la signification de tout cela. Le prêtre représente en face de Dieu le peuple. C'est ça que ça... Ça signifie qu'il faut qu'il porte le peuple en présence de Dieu. Il faut que ce soit représenté en présence de Dieu, dans son office de prêtre. En tant qu'homme, il ne représente pas les autres. C'est en tant que chargé de cet office du prêtre qu'il représente les autres en face de Yahvé, en face de Dieu, dans son attitude religieuse. Et c'est pour ça que les noms des 12 tribus doivent être présents. Ils portent tout le peuple en présence de Dieu. Il a cette responsabilité. Il est le représentant du peuple en présence de Dieu. Mais c'est vrai, alors il faut bien saisir, c'est vrai qu'au niveau de l'adoration, chaque fois que nous adorons Dieu pour toute l'humanité. L'adoration a une dimension universelle et une dimension cosmique. Quand nous adorons Dieu au nom de toute l'humanité. Ça, c'est sûr. Et nous l'adorons au nom de toute l'humanité et au nom de tout l'univers. C'est tout l'univers qui retourne vers Dieu, son Créateur, par notre adoration. L'attitude religieuse a quelque chose en elle-même d'universel. Il y a quelque chose de plus ici. Pas la même chose, la créature qui adore et le prêtre qui adore. Mais il y a une continuité. Si l'adoration ne faisait pas chacun de nous le responsable de toute l'humanité en face de Dieu, nous ne pourrions pas comprendre cela. Nous ne pourrions pas comprendre comment il y a quelque chose de plus, mais qui s'enracine dans l'attitude religieuse. C'est dans ce sens-là que le sacerdoce est premièrement religieux. Et le prêtre va, dans sa fonction de prêtre, qui va être le sacrifice en premier lieu, qui va être la prière dans le sens le plus fort, qui est le point de vue de l'adoration, mais d'une adoration visible, parce que le prêtre, en tant que prêtre, ce n'est pas la prière individuelle, c'est la prière communautaire. C'est toute la communauté qui retourne vers Dieu. Et c'est toute la communauté qui retourne vers Dieu par lui et avec lui. Et donc il faut que toute la communauté soit présente. Soit présente non seulement dans son cœur, dans l'adoration, c'est quelque chose de purement intérieur. Donc c'est tout l'univers qui est présent, j'allais dire virtuellement. Quand vous adorez, vous ne pensez pas nécessairement à toute l'humanité. Mais quand vous adorez pour toute l'humanité. Et vous adorez pour toute l'humanité et tout l'univers. On ne peut pas adorer autrement. C'est quelque chose de fondamental, l'adoration. Donc c'est virtuel. Tandis que lorsqu'il s'agit du sacerdoce, c'est au nom de tout le peuple dont on est le prêtre, représentant ce que dit l'Épître aux Hébreux, représentant de tout le peuple en face de Dieu. Et donc ce qui était virtuel devient actuel. Dans l'adoration du prêtre, c'est quelque chose d'actuel. La liturgie a ceci de particulier, c'est qu'elle actualise ce qui, dans le point de vue individuel, n'est que virtuel. Ça actualise l'adoration de tout le peuple. C'est au nom de tout le peuple que le prêtre adore. Et ceci doit être signifié et manifesté d'une manière visible, d'une façon sensible. Et c'est manifesté d'une façon sensible et d'une façon visible, justement par ce point de vue de l'habit. Oui, l'habit manifeste à l'extérieur ce qui doit être vécu à l'intérieur. Il doit y avoir une harmonie entre les deux. C'est en ce sens-là que si on portait l'habit sans qu'il y ait l'intention, il y aura un mensonge. Parce qu'on apparaîtrait comme extérieurement remplissant cette fonction et que le cœur est loin. Oui, c'est comme celui qui fait des gestes extérieurs d'adoration et qui n'adore pas profondément. Alors à ce moment-là, il y a un mensonge. Et le mensonge le plus terrible, c'est à l'égard justement de l'attitude religieuse. Parce que c'est l'attitude religieuse qui demande d'être la plus vraie. C'est par l'attitude religieuse qu'on est vrai, pratiquement. Et donc, si le mensonge s'établit dans l'attitude religieuse, c'est la chose la plus terrible. C'est ce premier mensonge de Caïn qui, au fond, fait les gestes extérieurs et qui n'adore pas vraiment. Alors, ici, on établit, vous voyez, le sacerdoce. Ce sacerdoce nouveau, parce que c'est un sacerdoce nouveau imposé par Dieu, ce n'est pas uniquement l'attitude religieuse, il y a quelque chose de plus, ce sacerdoce attend le sacerdoce du Christ. Sacerdoce religieux prophétique. Il ne peut pas s'expliquer uniquement par le peuple, il s'explique aussi par l'attente du Christ. Sans que ce soit explicité, sans que ce soit dit, mais il est prophétique dans l'intention de Dieu. Dans l'intention de Dieu, il est tout entier ordonné au sacerdoce du Christ. C'est en ce sens-là que pour nous, il reste toujours une disposition par rapport au sacerdoce de Jésus. Et donc il nous aide à comprendre le véritable sacerdoce du Christ. Il nous aide à comprendre ce que représente ce point de vue du Christ qui va s'offrir pour toute l'humanité dans la nudité, dépouillé de ses vêtements. Il y a une espèce de contraste extraordinaire entre la nudité de Jésus à la croix et l'habit des prêtres dans l'ancienne alliance. Il faut saisir ce que ça représente, parce que chacun de ces habits représente quelque chose, comme on l'a dit, quelque chose de la gloire. Et le sacerdoce du Christ va se réaliser dans la suprême pauvreté, dans la pauvreté la plus radicale qui soit. On ne peut pas être plus pauvre que le Christ crucifié. Et son sacerdoce se réalise là, dans cette pauvreté suprême. Et cette pauvreté va s'achever dans le sépulcre. Et ce n'est qu'en passant par le sépulcre que la gloire sera donnée. Notre sacerdoce est lié, le sacerdoce ministériel, le sacerdoce chrétien, est lié à la croix et à la gloire. Il est lié à la pauvreté de la croix et au triomphe de la gloire, à la résurrection glorieuse. Le sacerdoce de l'Ancien Testament et ses habits qui montrent et qui manifestent ce qu'est ce sacerdoce, ce qu'il est, pour nous faire comprendre ce qu'il doit être. Il n'implique pas cette dimension de pauvreté. Il est ordonné à la gloire du Christ. Mais il s'enracine très profondément dans l'attitude religieuse. L'attitude religieuse et l'attitude communautaire, les deux. Nous reviendrons sur la signification de chacun ensuite. Tu feras un pectoral du jugement, œuvre d'artiste. Vous avez toutes les fonctions du prêtre qui sont présentes à travers chacun de ses habits. Chacun de ses habits, symboliquement, représente la fonction du prêtre. Tu feras un pectoral du jugement, œuvre d'artiste. De même façon que l'éphode, tu le feras d'or, de pourpre violette, de pourpre rouge, de cramoisi et de lin fin retors, tu le feras. Donc, chacune des couleurs a aussi sa valeur symbolique. Parce que les couleurs liturgiques, ce n'est pas n'importe quelle couleur. On perd ce sens, nous perdons terriblement ce sens. Nous devons tout le temps le retrouver. Il ne faut pas le perdre. Les couleurs liturgiques ont leur signification. Et les couleurs liturgiques prennent leur première signification dans justement ces habits que Dieu veut pour le point de vue du sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Il sera carré, doublé. D'un empan sera sa longueur et d'un empan sa largeur. Tu lui sertiras un certissure de pierre, quatre rangées de pierre, sur une rangée, une sardoine, une topaze et une émeraude, la première rangée. La deuxième rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. La troisième rangée, une opale, une agate et une améthyste. La quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Vous voyez toutes les pierres précieuses que vous retrouvez dans l'Apocalypse. L'attente de la Jérusalem céleste. Ça, c'est net. Donc, liturgie prophétique d'attente de la Jérusalem céleste. La liturgie de la terre n'est jamais parfaite. Elle est une liturgie d'attente. Elle est une liturgie en vue de la gloire. Elle n'est pas Et c'est important parce que la liturgie va nous montrer comment on ne doit pas rester enraciné sur la terre. Il y a cette dimension d'attente. Et cette dimension d'attente est représentée ici par ces pierres précieuses, et ces pierres précieuses qui annoncent la gloire. Elles seront piquées dans l'or par leur certitude. Les pierres seront au nom des fils d'Israël, 12 à leur nom. Elles seront en gravure de sceaux, chacune à son nom, pour les 12 tribus. Tu feras pour le pectoral des chaînets tressés en façon de torsade d'or pur. Tu feras pour le pectoral 2 anneaux d'or et tu placeras les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu placeras les 2 torsades d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Les 2 extrémités des 2 torsades, tu les placeras sur les deux chatons et tu les placeras sur les épaulettes de l'éphod, vers son devant. Tu feras 2 anneaux d'or et tu les mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord qui est de l'autre côté de l'éphod à l'intérieur. Tu feras 2 anneaux d'or et tu les placeras sur les 2 épaulettes de l'éphod, par en bas, sur son devant, près de son attache, par-dessus l'écharpe de l'éphod. On liera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette pour qu'il soit sur l'écharpe de l'éphod. Ainsi le pectoral ne se déplacera pas de dessus l'éphod. Le souci de l'ordre. C'est très important, je crois, de saisir cet aspect de l'ordre voulu par Dieu dans cette attitude du prêtre qui porte la responsabilité, toujours les 12 tribus d'Israël. Et Aaron portera les noms des fils d'Israël dans le pectoral du jugement, sur son cœur, quand il viendra dans le lieu saint, en mémorial devant Yahvé, perpétuellement. Tu placeras dans le pectoral du jugement l'Ourim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron, quand il viendra devant Yahvé. Et ainsi Aaron portera le jugement des fils d'Israël sur son cœur, devant Yahvé, perpétuellement. Et le jugement lié au cœur, c'est très important. Ce n'est pas le jugement d'une justice, c'est un jugement de miséricorde et d'amour. Il est porté sur le cœur. Et c'est l'attitude de l'intériorité qui commence, qui est manifestée. Le point de vue religieux ne peut pas être séparé de cette attitude profonde du cœur. Et celui qui doit réaliser cela doit porter au plus intime de son cœur toutes les tribus d'Israël. Il est lié à cela. Le mémorial, perpétuellement. Et l'aspect du mémorial, c'est l'aspect de l'éternité présent dans le temps. C'est ça le mémorial, c'est l'éternité présente dans le temps. Et l'aspect religieux et sacré fait qu'il y a un lien d'éternité avec le temps. C'est que le point de vue religieux brûle le temps. On est au-delà du temps dans l'attitude religieuse, puisqu'on est relié à celui qui est l'éternel. Et les gestes qu'on fait au point de vue religieux sont toujours reliés à cette dimension d'éternité. Donc il y a cette dimension du mémorial qui est cette présence. Tu feras le manteau de l'éphod tout de pourpre violette. Il y aura en son milieu une ouverture pour la tête. Il y aura à son ouverture tout autour une lisière, œuvre de tisserand. Celui sera comme une ouverture de cotte de maille. Elle ne se déchirera pas. Tu feras sur son bord inférieur des grenades de pourpre violette, de pourpre rouge, de cramoisi, sur son bord inférieur tout autour, et des clochettes d'or au milieu d'elle tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur le bord inférieur du manteau tout autour. Oui, l'œuvre d'art hein, qui doit se mettre. Et vous voyez que dans l'orthodoxie, on a beaucoup plus gardé le lien avec l'ancienne alliance. Beaucoup plus que dans la liturgie latine. Ça aussi, c'est très important à voir. Parce qu'il y a des quantités de choses de l'orthodoxie que nous ne pouvons pas comprendre si nous ne regardons pas ce point de vue de la liturgie de l'ancienne alliance. Et, tandis que le point de vue latin, c'est autre chose, ça fait partie, c'est comme me disait Paul VI, le point de vue latin et le point de vue orthodoxe, au niveau liturgique, je ne dis pas au niveau doctrinal, mais au niveau liturgique, comme au niveau proprement théologique, sont complémentaires et doivent se considérer toujours comme complémentaires. On ne peut comprendre parfaitement l'aspect liturgie latine qu'en regardant la liturgie orthodoxe. Et on ne peut comprendre parfaitement la liturgie orthodoxe qu'en regardant le point de vue latin, comme au point de vue, comme au point de, vue de la théologie. Ce sont deux sœurs. Paul VI l'a dit quand il a été voir Athénagoras. Il a bien montré cet aspect complémentarité. La séparation a fait qu'il y a une rivalité. Alors on a insisté sur la rivalité. Nous insistons, nous, maintenant, et c'est là, peut-être l'aspect de grandeur de l'Église d'aujourd'hui, c'est que grâce à sa pauvreté, on est rival quand on est riche. Grâce à la pauvreté de l'Église latine et de l'Église orthodoxe, qui toutes les deux ont été humiliées, et continue de l'être. Alors, dans la pauvreté, on peut s'unir. On accepte une complémentarité dans la pauvreté, tandis qu'on n'accepte pas de complémentarité dans la richesse. Ça, c'est sûr. Dans la richesse, on se suffit. Alors, il y a une espèce de pharisaïsme. On se suffit à soi-même. Tandis que dès que la pauvreté est là, immédiatement on accepte la complémentarité. Pour accepter la complémentarité, il faut accepter justement qu'on n'est pas tout. On est toute l'Église au niveau de la doctrine, oui. Au point de vue théologique, au point de vue liturgique, il y a une complémentarité. L'unité, elle est dans la foi. Et la liturgie et l'aspect théologique, puisqu'il y a l'apport humain. Et l'apport humain existe là. Alors là, il y a une complémentarité. Il s'agit de bien voir où est l'unité et où est la complémentarité. C'est là toute la difficulté, vous comprenez ? Et je parle spécialement des orthodoxes, parce que c'est vis-à-vis des orthodoxes que le problème se pose de la manière plénière. Il y a une Église. Du côté protestant, il n'y a pas d'église au sens absolu. Au sens absolu, il n'y a pas d'église, tout l'aspect hiérarchique a disparu. Et c'est ce qu'on reconnaît maintenant Thésée. Hein. On voit très bien le cheminement que Thésée a fait. Au début, ils pensaient, et maintenant, ils le disent. Nous sommes une plateforme d'attente, de rencontre, mais c'est très difficile de parler d'une complémentarité. C'est le problème de l'œcuménisme doit se comprendre au niveau théologique et au niveau liturgique. Et doit se comprendre justement dans le phénomène de la complémentarité ou de la non-complémentarité, c'est-à-dire dans le sens où on doit redevenir pauvre pour être relié à quelque chose qui est avant. Il y a un ordre entre les deux. L'Église latine reste l'aîné. Pierre. Et l'autre doit être relative, mais d'une relation mutuelle. On va dire une relation d'un seul sens, mais une relation mutuelle puisqu'il y a une complémentarité. S'il y a une complémentarité, il y a nécessairement une relation mutuelle. Il y a quelque chose qui doit s'apporter de l'un à l'autre. J'avais oublié de taper. Vous avez tapé ? C'est l'heure, je crois.